Au sommaire du monde aujourd'hui, ce soir sur VOA Afrique. Procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Bonsoir à tous, Claire Morin-Gébourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Je vous excuse pour ce petit problème technique. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Le général Diane Déré nie avoir été le cerveau. Les États-Unis ont fermé leur ambassade à Kinshasa aujourd'hui suite à des menaces d'attaques terroristes. Au moins 22 personnes ont été tuées dans deux attaques distinctes en Somalie. Et puis ces tensions en mer Noire, l'armée russe a capturé 3 navires ukrainiens. Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 se poursuit. L'un des présumés auteurs, le général Gilbert Diane Déré, est passé à la barre. Il a plaidé non coupable. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucuns appellent aujourd'hui coup de force, a déclaré ce lundi matin le général Gilbert Diane Déré. L'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré pendant plus de 2 décennies ne reconnaît pas les faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires, d'incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaire et trahison qui lui sont reprochés. Le coup d'état de septembre 2015, perpétré par des éléments de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle en pleine transition, a porté le général à la tête du CND, Conseil national pour la démocratie, l'organe qui devait gérer le putsch. Mais c'est tout le contraire que dit le général Diane Déré. Je me suis vu obligé de me porter au devant des choses, bien que n'ayant pas moi-même été associé à la préparation. Fait-il savoir à la barre, avec assurance, habillé dans sa traditionnelle tenue militaire terre du Burkina. Le général Diane Déré a chargé l'ancien premier ministre Isaac Zida en exil au Canada. Pour lui, Zida aura contribué à gâcher le climat au sein du RSP et des autres corps de l'armée. En un mot, ce coup d'état est la résultante d'une transition mal gérée au Burkina Faso. Le putsch a fait une quinzaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Togo, aucun candidat de la principale coalition de l'opposition ne sera présent aux prochaines élections législatives du 20 décembre. La campagne électorale doit démarrer le 4 décembre. Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition, a déclaré que son mouvement ferait en sorte que ces législatives n'aient pas lieu, et ce, par tous les moyens. Nous voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo, a-t-elle ajouté, affirmant que la coalition de l'opposition avait déjà saisi la CDAO, l'instance régionale qui suit de très près la crise politique togolaise. Au Niger, plus de 400 hectares de riz, soit une production de près de 3000 tonnes. Ces 400 hectares ont été détruits dans les inondations début novembre dans la région de Difa, dans le sud-est du pays. Le gouverneur de la région, Mahamadou Bakabé, a chiffré à plus de 717 millions de francs CFA les pertes, ce qui risque d'aggraver la situation alimentaire de milliers de paysans de Difa, dont de nombreux villages accusent déjà des déficits céréaliers. Cette situation s'ajoute aux attaques meurtrières des djihadistes de Boko Haram dans la région depuis 2015. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa est fermée ce lundi en raison d'informations dites crédibles et précises, selon les mots de l'ambassadeur, sur une possible menace terroriste contre ses installations. Cette alerte terroriste a contraint la police à ériger des barrières dimanche soir dans la capitale de la RDC et à renforcer la sécurité autour du bâtiment de l'ambassade des États-Unis. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a reçu des informations crédibles et précises sur une possible menace terroriste contre les installations du gouvernement américain à Kinshasa, a informé à ses ressortissants RDC, la représentation diplomatique américaine. Face à ces menaces, elle a signalé que ses bureaux seraient fermés au public ce lundi 26 novembre 2018. La représentation diplomatique n'a donné aucune information sur ces menaces, ni sur les installations du gouvernement américain visées. Ce lundi matin, une Jeep de la Légion nationale d'intervention de la police était positionnée à l'entrée du bâtiment de l'ambassade. Les policiers en lunettes noires, armes en bandoulière, étaient très remarquables. Le même dispositif était déployé au centre culturel américain. Intervenant peu avant midi sur Top Congo FM, le colonel Piro Mwanamputu, porte-parole de la police, a justifié les barrières érigées dans les coins stratégiques de Kinshasa par cette menace terroriste et rassuré la population que la situation est désormais sous contrôle. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, les observateurs de l'Union européenne n'ont pas été invités à superviser les élections prévues le 23 décembre prochain. La CENI a invité des observateurs de l'Union africaine, de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe et de l'Organisation internationale de la francophonie. Il n'y aura pas d'invitation pour des observateurs donc de l'Union européenne et ceux de la Fondation Carter. C'est ce qu'a précisé un responsable de la CENI. En Centrafrique, le cardinal Dieudonné Zapalainga, archevêque de Bangui, est de retour d'un voyage à Alindao. Il a rapporté des témoignages sur des massacres à la mi-novembre. Un autre dignitaire religieux, Monseigneur Nestro Désiré Ngombo Azagbia, est lui de retour de Batanfagafo, dans le nord-ouest, où des combats meurtriers ont eu lieu récemment. Monseigneur Azagbia s'est désolé de la passivité des casques bleus en Centrafrique face à ces violences. Au moins 22 personnes ont été tuées lundi dans deux attaques distinctes en Somalie. Les Shabab ont aussitôt revendiqué l'un de ces attentats. Nanit Talani.
La première attaque a eu lieu tôt ce matin dans la ville de Galkayo, dans le centre de la Somalie. Des combattants Al-Shabaab ont attaqué le complexe d'un chef religieux controversé, le soufi Cheikh Abdewali Ali Elmi. Ils l'ont tué avec au moins 14 autres personnes. Les habitants de la ville ont déclaré s'être réveillés à la suite d'explosions suivies de tirs nourris. Une voiture piégée avait percuté le portail du complexe, puis les assaillants l'ont pris d'assaut. Les forces de sécurité ont lancé une contre-offensive, faisant 2 morts parmi les attaquants. Un troisième a été arrêté. Le groupe Al-Shabaab a revendiqué l'attaque contre cet imam soufi qu'il accusait de blasphème. Par ailleurs, 8 personnes ont été tuées dans une seconde attaque à la voiture piégée à Mogadiscio. L'explosion s'est produite sur une route très fréquentée au sud de la capitale. Cette dernière attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les Shabaab sont pointés du doigt.
Et puis maintenant, le tour donc de l'actualité à l'international. Les gardes-frontières russes qui ont arraisonné dimanche 3 navires ukrainiens dans le détroit de Kerch ont agi en stricte conformité avec le droit international. C'est ce qu'assure le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Plus de détails avec Bagasikoura.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors, de nouveau nos excuses, nous vous annoncions Bagasikoura donc sur ces tensions entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, nous y reviendrons probablement dans quelques instants. On me fait signe en régie. Alors, donc retour sur ces tensions en mer Noire entre la Russie et l'Ukraine.
Pour Dmitri Peskov, il s'agit d'une intrusion de navires de guerre étrangers dans les eaux territoriales de la Fédération de Russie à un journaliste ukrainien qui lui demandait si c'était le président russe qui avait pris la décision de cette attaque. Dmitri Peskov a répondu qu'il n'appellerait pas cela une attaque, mais plutôt une action nécessaire à la préservation des frontières de la Russie. Dimanche, les gardes-côtes russes, qui dépendent des services de sécurité, ont capturé 2 vedettes et un remorqueur de la marine ukrainienne. Les gardes-côtes russes ont fait usage de la force et tiré sur les bateaux pour les intercepter. Une 20aine de marins ukrainiens ont été faits prisonniers, dont plusieurs ont été blessés. Kiev demande leur libération et de nouvelles sanctions contre la Russie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient aujourd'hui une réunion d'urgence réclamée par l'Ukraine et la Russie sur cet incident sans précédent autour de la mer d'Azov, une petite mer intérieure de la mer Noire que se partagent la Russie et l'Ukraine.
Et toujours aux États-Unis, 42 migrants ont été arrêtés du côté américain de la frontière avec le Mexique en tentant de passer en force. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Le gouvernement burkinabé et le Fonds international de développement agricole lancent le projet d'appui à la promotion des filières agricoles pour un coût global de 72 millions de dollars. L'initiative cible 4 filières que sont le riz, le maraîchage, le sésame et le niébé. Elle vise à accroître la productivité des petits exploitants agricoles et contribuer à une amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que des revenus des populations des régions de la boucle de Mouhoun, des Cascades et des Hauts Bassins. Environ 57 000 ménages devraient en bénéficier. Le Niger inaugure sa première centrale solaire d'une capacité de 7 MW. Construite près de la localité de Malbaza, dans le centre du pays, la centrale a coûté 27,7 millions de dollars et sa production permettra d'alimenter environ 30 000 ménages dans les départements de Madawa, Malbaza et Koni. C'est dans le cadre d'un projet de mise en place d'ici à 2021 de centrales solaires d'une capacité totale de 100 MW. Terminons avec la Banque africaine de développement qui a accordé un prêt de 322,35 millions de dollars pour le projet routier Rumonge-Gitaza et Kabingo-Kasulu-Manyovu reliant le Burundi à la Tanzanie. Ce projet vise à renforcer l'intégration régionale et le commerce dans la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment entre les deux pays suscités. Cela implique aussi la construction d'un poste frontalier à guichet unique à la frontière entre le Burundi et la Tanzanie.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Vita Club a pris l'eau dès la finale aller de la Coupe CAF.
Oui, le club congolais a sombré 3-0 au Maroc hier face au Raja Casablanca. En 20 minutes, l'AS Vita Club a totalement coulé. C'est Raimi qui a donné le ton en ouvrant le score à la 47e minute après une talonnade astucieuse de Ben Alib. Le même Raimi a signé un doublé en marquant un deuxième but à l'heure de jeu avant que Ben Alib ne vienne marquer le troisième but du Raja à la 66e minute sur penalty. L'entraîneur de l'AS Vita Club l'a reconnu, il n'y a pas du tout eu photo entre les deux formations, Florent Ibengué.
On a été battu dans tous les duels, on a reculé alors qu'il fallait être beaucoup plus haut et plus conquérant. On a laissé jouer cette équipe du Raja et du coup, fatalement, on a pris les buts qu'il fallait prendre. Il fallait redoubler d'efforts pour laisser moins d'espace et essayer de conserver un espoir pour le match retour et éventuellement marquer un but. Mais je crois qu'on n'a pas été suffisamment compétiteur aujourd'hui. Il y avait moyen de faire autre chose que perdre 3-0 ici. Donc là, on s'est vraiment compliqué la vie. Il reste une manche. On va essayer au moins de la jouer pour la remporter.
L'Afrique n'a plus de représentants au mondial féminin des moins de 17 ans.
Et oui, qualifié pour les quarts de finale et dernier représentant du continent, le Ghana s'est arrêté là hier. Les Black Maidens ont été éliminés par le Mexique lors des séances de tir au but, remportées par leurs adversaires 4-2.
En Europe, Guardiola a prévenu Mahrez.
Mahrez doit bien jouer car Sterling est là et vice-versa, a déclaré l'entraîneur de Manchester City. Après la victoire des Citizens 4-0 sur le terrain de West Ham en championnat samedi dernier, souvent titulaire, l'Algérien Riyad Mahrez n'est entré qu'à la 73e minute à la place de Raheem Sterling. Les Citizens affrontent demain l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.
Keita Baldé, lui, est serein avant le déplacement de l'Inter chez Tottenham.
Nous avons une équipe qui peut aller où nous voulons, si nous le voulons tous ensemble. Nous y allons la tête haute, fier de nous, a lancé l'attaquant sénégalais au micro d'Inter TV. Auteur d'un doublé avec l'Inter Milan ce week-end en Serie A, Keita Baldé et son club se rendent en Angleterre ce mercredi pour affronter Tottenham à l'occasion de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions.
Omar Daffa, nommé nouvel entraîneur de Sochaux.
Bonne nouvelle donc, l'ancien international sénégalais, jusque-là coach de l'équipe réserve, a été officiellement nommé à la tête de l'équipe première après le limogeage de José Manuel Ayra pour insuffisance de résultats. Omar Daffa aura donc la lourde mission d'assurer le maintien des Lyonceaux en Ligue 2. Le club est actuellement 18e de la Ligue 2 avec seulement 14 points. Omar Daffa a été ancien joueur de Sochaux, club dans lequel il a joué de 1997 à 2009, puis entre 2012 et 2013.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Visite officielle en Israël du président tchadien Idriss Déby Itno. Une visite qualifiée d'historique puisque c'est la première fois qu'un président tchadien se rend en Israël depuis plus de 40 ans. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 1972. Comment apprécie-t-on au Tchad cette visite du président en Israël? Nous faisons le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Komadjingar.
Bien que les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 46 ans, Israël a été toujours au cœur du système sécuritaire du pouvoir de N'Djamena. Le régime tchadien a régulièrement sollicité le soutien israélien en matière de renseignement, notamment lorsque le fauteuil présidentiel est menacé. Aujourd'hui encore, les acteurs politiques assimilent cette visite à la situation sécuritaire qui prévaut au nord du pays. Pour Dr. Succès Masra, président du mouvement Les Transformateurs, il est temps que le langage de la guerre fasse place à celui du développement en prenant l'exemple d'Israël.
Israël, l'essentiel c'est du désert. Mais ils ont dompté le désert. Ils ont fait du désert une opportunité. Et donc, si c'est pour aller chercher des armes, pour mater une partie de son propre peuple, je pense que ça ne vaut pas la peine. Parce que cette visite a lieu au moment où nos compatriotes qui sont dans le Grand Bété, le nord de notre pays, qui sont sous le coup des bombardements de tous bords. De ce qui sort des premiers éléments de discussion entre M. Déby et M. Netanyahu, eh bien les questions de développement sont occultées, alors que dans un pays comme le nôtre, qui a une grande partie de sa superficie qui est désertique, on aurait pu s'inspirer de l'Israël sur ces questions-là.
Politologue et enseignant chercheur Evariste Ngarlem-Toldé estime lui aussi que la visite du président Déby en Israël a un agenda caché.
Le Tchad serait en train de vivre une situation qui a poussé donc son chef d'État à chercher un nouvel positionnement parce que qui dit Israël dit renseignement et armement. Par cette visite, le chef de l'État tchadien a choisi son camp. Il attendait mieux des pays arabes. Il se rend compte que de plus en plus, c'est comme si c'est les pays arabes qui soutiennent ceux qui le combattent. Et je crois que les relations entre le Tchad et les pays arabes connaîtront dans les jours à venir une situation qui ne serait pas comme les années passées.
Pour l'ambassadeur de la paix de la francophonie et des Nations Unies, Abdraman Diasnabaï, la visite du chef de l'État en Israël rentre dans sa compétence dévolue par la constitution tchadienne.
Dans le cadre de la sécurité, il y a une coopération militaire, mais ça ne veut pas dire que Israël viendra intervenir ici. Moi, je pense qu'il ne faut pas donner beaucoup d'importance à ce qui se passe au nord, c'est vrai. C'est une préoccupation pour le Tchad, mais les gens qui sont au Tibet, eux-mêmes, ils disent qu'ils veulent protéger leur zone là où il y a de l'or. Donc, on ne peut pas aggraver ce qu'on souhaite. C'est qu'il faut passer par le dialogue pour trouver une solution à la paix.
Le président tchadien Idriss Déby Itno soutient que sa présence sur le sol hébreu traduit la volonté des dirigeants des deux pays de s'engager dans une nouvelle ère pour le rétablissement de la coopération diplomatique. Mais selon certaines opinions, ce rapprochement ne devrait pas déboucher dans l'immédiat sur une reprise des relations diplomatiques, mais plutôt un renforcement de la coopération sécuritaire pour la lutte contre le terrorisme. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvel enlèvement de personnes par Boko Haram dans la région de Diffa au Niger. 15 jeunes filles ont été prises en otage dans la nuit du vendredi à samedi dernier près de Toumour, village dans lequel des éléments de Boko Haram avaient tué la veille 8 travailleurs d'une société française de forage. Cette situation irrite les élus de la région et les associations nationales de défense des droits des enfants. Nous faisons le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Très remontés, les députés de la région de Diffa, tous bords politiques confondus, ont lancé un cri de cœur au gouvernement. Lamido Moumouni Harouna est leur porte-parole.
Si on ne prend pas garde, d'autres événements peuvent survenir. Et si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Nous demandons au gouvernement de prendre instamment des mesures pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. De prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la zone de Toumour et ses environs en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire dans cette zone afin que les populations ne puissent pas faire un autre mouvement. Et nous demandons au gouvernement de faire diligence pour écouter le cri de cœur non seulement des députés de la région de Diffa, mais aussi les populations de la région de Diffa et en particulier la commune de Toumour qui vit des moments extrêmement difficiles.
La coalition nigérienne de défense des droits des enfants demande aux députés d'aller au-delà et appelle à une mobilisation générale en faveur des enfants. Sidikou Moussa, président de CONID Niger.
Je crois qu'il y a à peine 112 heures, la localité de Toumour a été quand même attaquée, où des concitoyens ont été tués. Je ne comprends pas qu'en l'espace de 72 heures, on puisse également enlever 15, voire 16 jeunes filles dans la même zone. J'en appelle de vive voix en cas aux députés pour que, au-delà peut-être de la déclaration qui a été faite, que les ministres qui sont concernés puissent faire l'objet d'interpellations devant le Parlement et puissent s'expliquer. Je pense que l'heure est grave. Et c'est l'occasion en tout cas d'appeler la jeunesse, d'appeler en tout cas les parents à se réveiller, à ce que nous demandons à l'État des comptes. Comme nous sommes déjà dans les 16 jours d'activisme, qu'il y ait vraiment une marche citoyenne pour demander des comptes à nos gouvernants par rapport effectivement à la sécurité dans la région de Diffa, mais un peu partout également dans la région par exemple de Tillabéri, mais surtout faire en sorte que les enfants ne soient plus victimes de ce genre d'abus.
Au lendemain de cet enlèvement, l'on apprend que 7 ex-combattants de la secte Boko Haram, hébergés dans un centre de déradicalisation à 180 km de Diffa, se sont évadés au cours d'une opération de distribution de kits alimentaires. Selon les dernières informations, les 4 ont été repris alors que les 3 autres sont toujours en fuite. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Comment lutter contre les violences faites aux femmes? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'était hier. Et pour marquer l'événement, plusieurs pays, comme le Togo, ont lancé une campagne de 16 jours contre les violences faites aux femmes. Comment sont traitées les femmes dans votre pays? Comment expliquer ces violences et comment changer ces comportements? Morgane Guerriec en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
Au Congo-Brazzaville, les populations se posent des questions sur la suite des missions du Fonds monétaire international, car jusque-là, le pays n'arrive pas à conclure un accord avec le FMI. Elle reste partagée entre déception et espoir, car le Congo renoue avec la crise économique. Écoutons le reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Le FMI est à sa 4e visite à Brazzaville depuis septembre 2017. À chaque mission, les populations se font elles-mêmes l'écho de ces rencontres.
On se demande pourquoi on ne se confie pas réellement au FMI. Est-ce qu'on protège ces gestionnaires qui ont fait preuve d'une gestion scabreuse? On ne comprend pas. Mais dans les rues, quand on cause, en tout cas, il n'y a pas trop de lueur d'espoir.
Dans les régies financières, les missions du FMI perturbent le fonctionnement normal de l'administration, comme le témoigne ici un directeur des affaires administratives et financières.
Fort malheureusement, sa présence à Brazzaville permet plutôt de constater que tout se bloque. Plus de paiement de trésor, plus de virement de salaire. Et là, à ce moment, on se dit, est-ce qu'ils viennent pour nous aider ou ils viennent réellement pour bloquer le pays? Les administrations publiques ont du mal à se faire payer. Mais l'argent ne circule pas. Même qui a émis un engagement au niveau du budget arrive à se faire payer le plus tôt que possible au niveau du trésor.
Au niveau des fins limiers de la finance congolaise, les analyses sur ces missions du FMI divergent. Clément Miarassa, ancien ministre des Petites et Moyennes Entreprises, donne son point de vue.
Est-ce que ceux qui ont plongé le pays dans cette situation sont capables d'apporter les solutions de sortie à cette crise? Et puis cette incapacité à sortir du pétrole et qu'on s'y accroche, si les effets sont comme le chef de la délégation du Fonds monétaire l'a dit, que c'est lié à la remontée des cours du prix du baril du pétrole, ça veut dire que notre situation, elle est très très fragile.
L'avis de l'analyste économique Alphonse Ndongo montre que malgré l'absence d'un accord d'aide avec le FMI, le Congo a fait plusieurs efforts.
Je crois qu'il est tout à fait normal que les autorités congolaises ne sont plus dans la même situation qu'il y a 2 ans pour essayer donc maintenant d'actualiser la position, les indicateurs économiques du Congo. Et quand vous regardez l'actuel budget, vous avez espoir parce qu'on renoue avec la croissance. En 2019, on nous annonce quand même un taux de croissance qui est au-delà de 3%. C'est déjà important. Je vous apprends qu'en 2016, le taux de croissance du Congo était négatif. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, le FMI qui vient traiter avec nous tienne compte maintenant de cette nouvelle donnée. On ne sera plus quand même dans une position où on doit ingurgiter la potion amère que le FMI aurait dû nous faire ingurgiter il y a 2 ans.
Le Congo court toujours après un accord avec le FMI et son dossier n'est pas dans l'agenda du conseil d'administration de ce mois de décembre. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La Sénégalaise Sini Samba, 26 ans, ingénieure en agroalimentaire, a cofondé le Lionceau, une entreprise spécialisée dans l'alimentation pour bébés. Elle propose une alternative locale qui permet, selon elle, d'améliorer l'état de santé nutritionnel des enfants tout en contribuant au tissu économique du pays et aider les producteurs du pays. Des propos recueillis par Raïssa Girondin.
Au Sénégal, 19% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition et les parents manquent cruellement d'informations autour de la nutrition infantile. Aujourd'hui, sur le marché des purées pour bébés au Sénégal, il n'y a que des produits importés. C'est pour ça que j'ai fait le choix de rentrer au Sénégal pour créer cette entreprise.
Est-ce que vous pensez toucher un plus grand marché sur le continent hormis le Sénégal?
Oui, complètement, parce que si on regarde, par exemple, aujourd'hui, les autres pays en Afrique de l'Ouest, ce sont les mêmes problématiques. Beaucoup de, un fort taux de malnutrition, beaucoup de produits importés et beaucoup de pertes agricoles. Nous ambitionnons de répliquer notre modèle dans ces pays. Aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment important pour nous de valoriser nos ressources locales, qui sont vraiment des trésors du point de vue nutritionnel, et de les mettre au profit des enfants du continent.
Comment vous vous différenciez par rapport à la concurrence?
Dans toutes nos recettes, on n'utilise que des matières premières locales à haute valeur nutritive, comme le fruit du baobab, le fognon ou encore le mil. En plus de cela, on a vraiment construit cette communauté avec les mamans et en essayant d'être au plus proche de la clientèle. Donc on a des parents qui nous appellent, qui nous demandent des conseils à mon bébé, ne mange pas, qu'est-ce que je peux faire, quels légumes niveau commencer lors de la diversification alimentaire.
Est-ce que ces mamans sont donc prêtes à payer plus cher pour soutenir votre produit?
Au Sénégal, par exemple, les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit, ils commencent à prendre conscience par rapport au consommé local. Mais après, il faut avouer que le prix reste quand même un facteur déterminant dans l'acte d'achat. Mais ils font attention surtout à la qualité et à l'innovation des produits. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment à nous, transformateurs, de leur proposer des produits qui répondent vraiment à des standards internationaux.
Quel a été l'un des obstacles auxquels vous avez été confrontés?
C'est surtout l'accessibilité aux matières premières, donc l'approvisionnement. Du côté des producteurs, il y a beaucoup de pertes agricoles. Donc, par exemple, 50% de la production de mangue est perdue au champ, parce qu'ils n'arrivent pas à les acheminer en ville et il n'y a pas beaucoup de transformateurs locaux. Si on regarde au niveau infrastructure routière, il y a beaucoup de, c'est très compliqué pour pouvoir accéder dans certaines zones. Cela engendre donc les pertes au champ parce que les producteurs n'arrivent pas à acheminer leurs produits en ville et les transformateurs ils n'ont pas encore les moyens ni les capacités d'aller chercher cette matière première dans les régions.
C'était Sini Samba, fondatrice de l'entreprise Le Lionceau, basée au Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Joselle Morissa, à la console Curtis Bynum, au micro Claire Morin-Gibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet voaafrique.com et notre page Facebook bien sûr. Restez avec nous tout de suite, un nouveau point sur l'actualité avec Henri Francisque, suivi d'À votre avis, votre émission interactive présentée aujourd'hui par Morgane Guériec avec pour thème « Que pensez-vous des violences faites aux femmes et que faire ?» Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lumbumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.